9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue. Une heure pour vous informer et vous exprimer. Il y a 3 ans débutait l'invasion russe de l'Ukraine. Dans 10 minutes, vos questions et vos réactions sur ce conflit qui s'éternise et déstabilise l'échiquier international. Mais d'abord le journal. Bonjour Martin Guèze.
Bonjour Juan Gomez. L'Ukraine à la une également de ce journal. 3 ans de résistance, 3 ans d'héroïsme, dit ce matin le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À l'occasion des 3 ans de l'invasion russe en Ukraine, sommet de dirigeants à suivre à Kiev, Ursula von der Leyen et Justin Trudeau sont notamment arrivés dans la capitale ukrainienne. Nous serons aussi au Kenya, critiqués pour avoir permis la création d'un gouvernement sécessionniste au Soudan, alors qu'en France s'ouvre un procès titanesque, l'affaire Le Squarneck, la plus grande affaire de pédophilie de l'histoire du pays. Des dirigeants de l'Union européenne comme Ursula von der Leyen et Antonio Costa, des chefs d'État et de gouvernement, les premiers ministres canadiens Justin Trudeau et l'espagnol Pedro Sanchez, tous sont à Kiev pour le 3e anniversaire de l'invasion russe, l'Ukraine que des milliers de personnes ont dû fuir. Comme Elisabeth, elle est venue en France avec sa famille. Ils ont fui les bombardements. Elle est venue avec sa mère, son petit frère, ses grands-parents. Elle vit désormais dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne. Elle étudie à la prestigieuse université de la Sorbonne. Sylvie Coffi l'a rencontrée pour RFI.
Ça fait 3 ans, je suis en France depuis mars 2022 et la guerre a commencé le 24 février 2022.
Le teint pâle, un regard perçant, Elisabeth est comme toutes les jeunes filles de son âge en apparence. Car quand la guerre a éclaté, l'adolescente a grandi d'un coup.
C'était très difficile pour moi parce que j'étais 10 jours en route. On était 6 dans la voiture, donc on est arrivé ici avec ma famille. Après, ils ont trouvé la famille française qui nous a accueillis. Donc, on a habité chez eux 3 mois et maintenant, on est des amis. J'ai passé le bac ukrainien et j'ai passé le bac français. L'essai, c'était en ligne parce que je viens de Kharkiv. C'est la ville qui est très proche de la Russie, donc toutes les écoles étaient fermées. Et maintenant, je suis à la Sorbonne.
Sa mère, Katerina, se tient à ses côtés. Elle fait des efforts pour parler le français.
Un petit peu, je prends.
Vous travaillez ici?
Oui, je travaille à la mairie.
Son mari absent est mobilisé au front. C'est sa fille Elisabeth qui nous en parle.
Mon père est resté toujours en Ukraine parce que les hommes ne peuvent pas quitter le pays pendant la guerre. Il travaille comme démineur. Donc il y a des mines qu'il récupère. C'est un travail très difficile, très dangereux. J'ai peur et je suis très inquiète.
Pour l'instant, l'avenir de toute cette famille est en France.
Un reportage Sylvie Coffi, autre témoignage, celui de Natalia, venue en France mais de retour en Ukraine, qu'a rencontré Aurore Lartigue de la rédaction numérique de RFI. Témoignage, reportage et nos invités en vidéo à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. On retrouvera également à nouveau Andréane Mellard pour une nouvelle édition spéciale. Rendez-vous à 12h10, temps universel, en direct de Kiev. Kiev, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky redit toute sa fierté et sa gratitude au peuple d'Ukraine. 3 ans de résistance, 3 ans d'héroïsme absolu, a-t-il écrit dans un message sur les réseaux sociaux. 3 ans d'Infox aussi, venu de Russie. Viginum, le service de vigilance et protection contre les ingérences numériques étrangères, tire la sonnette d'alarme. Le dispositif d'influence russe est de plus en plus agressif et vise partout dans le monde à saper le soutien à l'Ukraine, Sophie Malibeau.
Ces 3 dernières années, le dispositif informationnel russe s'est consolidé et s'est étendu de façon tentaculaire. Des réseaux de faux sites sont mis à jour par centaines, des sites web usurpant l'identité de médias connus ou d'institutions internationales, des pseudo-médias en ligne sont utilisés afin de faire circuler des articles anti-ukrainiens justifiant l'invasion russe, semant le doute sur le bien fondé du soutien à l'Ukraine. Le tout est relayé par des centaines de milliers de comptes inauthentiques sur les grandes plateformes qui ne font pas grand-chose pour s'en prémunir. En fait, la dénonciation même de ces campagnes de désinformation fait les choux gras de leurs auteurs qui peuvent s'en prévaloir auprès des commanditaires qui les rémunèrent. Même si leur efficacité paraît douteuse, elles alimentent aujourd'hui tout un écosystème dépendant directement de l'État russe, de ses services de renseignement ou de structures para-étatiques. La diplomatie française a pu observer ces dernières années une certaine concomitance entre ces manœuvres informationnelles russes et les annonces témoignant d'un soutien économique ou militaire de la France à l'Ukraine. Dans le contexte actuel, Viginum, un service de l'État chargé de détecter les ingérences numériques étrangères, déplore l'intensification de la menace.
Sophie Malibeau de la cellule Info Vérif de RFI. Autre grand titre ce matin, les législatives en Allemagne Et la victoire des conservateurs de la CDU, avec près de 29% des voix, l'AFD, parti d'extrême droite, effectue une percée retentissante avec plus de 20% des suffrages. Et le SPD du chancelier sortant Olaf Scholz qui s'écroule avec 16%. Là aussi, on y revient sur notre site internet. Et on y revient dans une nouvelle édition spéciale à la mi-journée. Rendez-vous à 11h30, temps universel. RFI 10h05 à Khartoum, les paramilitaires des FSR qui signent une charte visant à la création d'un gouvernement parallèle au Soudan qui serait basé à Port-Soudan, accord signé à Nairobi, au Kenya, à l'initiative du général Emeti, commandant des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée soudanaise, le Kenya qui est aujourd'hui très critiqué pour avoir permis la création d'un gouvernement sécessionniste sur son sol. Gaël Lalex.
Dès hier, le gouvernement de Port-Soudan a décidé d'arrêter d'importer du thé kényan, selon un communiqué du ministère de l'Information. Le Soudan en est un des premiers consommateurs. Après le déclenchement de la guerre en 2023, les exportations kenyanes avaient chuté de plus de 70%, selon le bureau du thé du Kenya. Les retombées seront aussi diplomatiques. Ce week-end, William Ruto s'est entretenu avec Marco Rubio. Sur X, le président kenyan assure avoir expliqué au secrétaire d'État américain que Nairobi offre simplement une plateforme aux acteurs clés soudanais afin de lancer un processus de paix. Sur le même réseau social, le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain s'indigne que le Kenya, un allié des États-Unis, aide les forces de soutien rapide à légitimer leur règne génocidaire. Le général Emeti est en effet sous sanction américaine depuis janvier. Dans un communiqué publié ce week-end, la Commission kényane des droits de l'homme accuse également William Ruto de saboter tous les efforts panafricanistes. Elle rappelle que lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, le Conseil de paix et sécurité a condamné toute ingérence extérieure dans le conflit soudanais. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Le pape a bien dormi, fait savoir le Vatican. Le pape François, toujours dans un état critique, toujours hospitalisé pour une pneumonie. Le souverain pontife de 88 ans qui vient de passer sa 11e nuit de suite à l'hôpital. En France, ouverture ce lundi d'un procès hors norme, sans doute la plus grande affaire de pédophilie jamais jugée dans l'Hexagone, l'affaire Joël Lescouarnec, du nom de cet ancien chirurgien, accusé de viol et d'agression sexuelle sur près de 300 enfants, des faits qui se sont déroulés entre 1989 et 2014. Un procès permis grâce aux victimes qui ont su briser l'omerta, nous dit Francesca Satta, avocate d'une dizaine de parties civiles.
Aujourd'hui, on a donné un sens à la parole des victimes. Les victimes s'extraient du silence. Et ça, c'est un grand bond en avant. Vous voyez, où on ne s'occupe plus de l'image de la personne que l'on attaque. Puisque, à l'époque, c'était un chirurgien viscéral et qu'il était peut-être compliqué dans l'esprit des gens que de s'attaquer à ce genre de personnes. Il était compliqué aussi de s'attaquer à une famille plus ou moins notable sur la place qu'elle occupait. Donc aujourd'hui, tout ça, ça n'a plus de raison d'être et heureusement, on a dépassé tout cela, on a donné un coup de balai à toutes ces vieilleries et on est passé à autre chose. Parce que la parole principale, c'est celle des victimes. On ne peut pas nier la parole d'un enfant qui vient vous révéler qu'il est victime la nuit d'actes dépravés de son oncle. Aujourd'hui, ça passe plus. Aujourd'hui, bien sûr qu'on va prendre en considération cette parole de la petite victime.
Des propos recueillis par Baptiste Coulon. Enfin, la France va inspecter de près son aide au développement alors que les États-Unis ont suspendu USAID. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a lui annoncé la création d'une commission d'inspection avec dans le viseur l'AFD, l'Agence française de développement. En France, de nombreuses critiques se font entendre sur ces dépenses à l'étranger. Critiques surtout venues de l'extrême droite, Claire Fage.
Je viens de signer il y a quelques jours un décret qui instaure une commission d'évaluation de l'aide publique au développement, a déclaré Jean-Noël Barrot lors d'un entretien avec nos confrères d'Europe 1 et de CNews. Il s'agit, projet par projet, a-t-il précisé, de s'assurer systématiquement que ce que nous faisons est bien dans l'intérêt direct des Français ou indirect, parce que ces interventions de l'AFD, l'Agence française de développement, bénéficient aussi très largement à des entreprises françaises. Ces propos du ministre des Affaires étrangères ont été tenus le jour de la publication d'un dossier dans le JDD, l'hebdomadaire dominical détenu par Vincent Bolloré, où l'aide française au développement est qualifiée d'obscure, ubuesque ou obsédée par le genre. Et alors qu'un rapport parlementaire du député Rassemblement National, Guillaume Bigot, exige un moratoire sur cette aide qu'il juge illisible, coûteuse et peu efficace. Tout cela dans un contexte d'économie budgétaire, l'aide française au développement, 15 milliards d'euros l'an dernier, a déjà été rabotée de 2 milliards d'euros dans le budget qui vient d'être adopté. Et alors que Donald Trump a tout simplement gelé pour 3 mois l'aide américaine.
Et c'est avec Claire Fage que se referme ce journal. Moi, je vous laisse avec Juan Gomez pour appel sur l'actualité. On va reparler d'Ukraine, Juan.
Effectivement, avec un invité qui va nous accompagner tout au long de l'heure qui suit. Merci beaucoup, Martin Guez, de nous avoir informé. 9h10 à Paris, 8h10 en temps universel dans 30 secondes.